Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes frères et sœurs, que nous soyons ou non des piliers de cette paroisse, que nous soyons ou non affiliés aux églises de la Réforme, que nous ayons ou non nos habitudes dans des lieux ecclésiaux ou religieux, nous sommes tous frères et sœurs invités à une même fête. Pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont donnés, de la manière la plus égale qui soit, la vie, la joie, la paix en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour exprimer notre reconnaissance en chantant le premier répond indiqué dans le livret liturgique « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, car malgré nos peines, nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu qui ne se détourne pas de nous. Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton règne, nous te louons. Pour ton évangile, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Amen. Nous pouvons exprimer notre louange par le chant, et c'est ce que je vous propose de faire avec le chant du psaume 107. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 107.
Thank you.
Prenons place. Nous avons l'habitude dans notre culte d'avoir un moment pour entendre ce que nous pouvons appeler la volonté de Dieu. Dans d'autres lieux, nous pourrions dire écoute de la loi de Dieu. Dans les deux cas, souvenons-nous que les 10 paroles qui ont été consignées aussi bien dans le livre de l'Exode que le livre du Deutéronome commencent ainsi. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. » Cela nous rappelle que ce que nous appelons volonté de Dieu, ce que nous appelons loi de Dieu, est la manière qui nous est donnée pour pouvoir prolonger à l'infini cette expérience de la liberté. La loi n'est pas là pour nous contraindre, n'est pas là pour nous asservir. La loi telle qu'elle s'exprime dans les textes bibliques est là pour prolonger cette libération. Et voici de quelle manière nous pouvons entendre cette libération qui s'inscrit dans le temps avec quelques versets du livre du Deutéronome. Ce sont quelques paroles qui sont transmises par l'intermédiaire du personnage Moïse. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu puisses effectivement la mettre en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, continue le livre du Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur Dieu, pour obéir à sa voix et s'attacher à lui. Nous avons souvent entendu ces paroles qui nous appellent à la liberté, mais nous les avons peu écoutées. Oh, nous avons beaucoup prêché la liberté, mais combien de fois l'avons-nous véritablement vécue? Nous avons appelé les autres à la paix, mais l'avons-nous manifestée, cette paix? C'est là notre péché. Pour n'avoir pas écouté la parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Amen. L'événement Jésus-Christ, dont tout le Nouveau Testament nous donne de nombreux échos, c'est découvrir que Dieu s'est fait proche de nous. Et du coup, lorsque nous nous mettons à l'écoute du message qui nous a été transmis, nous l'entendons tel qu'il s'est adressé à l'humanité tout entière, avec les mots de l'Évangile, le mot « paix » par exemple, « que la paix soit avec vous ». Le mot « amour », « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le mot « pardon », « Père, pardonne-leur ». C'est par tous ces mots qui constituent l'Évangile, frères et sœurs, que Dieu nous donne l'occasion, l'ardeur de marcher vers son royaume. Alors, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Frères et sœurs, prenons place, à l'exception de Martine. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir au centre de cette communauté Martine, que nous avons appris à connaître, puisque cela fait quelques mois maintenant que vous fréquentez notre église. Nous avons eu non seulement le plaisir de vous accueillir, mais la joie de faire votre connaissance. Inutile de retracer votre biographie, j'aimerais quand même relever juste un petit point qui peut-être peut expliquer votre présence ce matin ici même. Nous savons que vous fréquentez quelques hauts lieux parisiens, le boulevard Arago, la rue d'Ulm, la rue Saint-Honoré, et ce sont autant de lieux où vous pouvez faire quelque chose de ce qui, pour une part, vous anime, l'inquiétude. Une inquiétude qui n'est pas simplement une inquiétude intellectuelle, mais qui est une inquiétude qui anime toute votre personne. Et la question est, que faire de l'inquiétude ? L'inquiétude, nous pourrions essayer de la transformer en une quiétude. Et nous pourrions chercher une communauté pour développer une sorte de quiétisme. Voilà quelque chose qui nous est bien étranger. Le quiétisme n'est pas pour nous la réponse à l'inquiétude. Pour nous, la réponse à l'inquiétude est le fait de pouvoir assumer ensemble cette inquiétude, le fait de pouvoir en faire quelque chose ensemble et faire en sorte qu'elle ne confine pas au tragique. L'inquiétude qui devient une quête, l'inquiétude qui se transforme en quête de ce que nous nommons Dieu, un lieu pour interroger, un lieu pour interroger aussi bien l'inquiétude que les réponses qui s'offrent à notre inquiétude. Alors, je ne développerai pas à l'infini ce thème de l'inquiétude, parce que justement, la quête est elle-même infinie. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez découvert dans la foi chrétienne une sorte de patrie. Une patrie non bornée, une patrie sans frontières, dont les traditions donnent des mots pour penser ce qui nous arrive, ce qui se joue, et pour utiliser les mots de l'un de vos maîtres, pour interroger ce qu'est l'être. La foi chrétienne, c'est aussi la découverte de l'autre, l'autre avec un A majuscule, aussi bien l'autre semblable que le radicalement autre, et notamment à travers la prédication de Jésus qui ouvre bien des fenêtres, bien des possibilités, à commencer par la possibilité de devenir, et peut-être de devenir disciple. Jésus qui nous donne la possibilité de poser des actes nouveaux, de faire preuve d'invention, d'originalité, ce qui permet de sauver le monde, notamment du tragique. Et je crois comprendre que c'est dans cette dynamique-là que vous vous inscrivez, mais vous nous en reparlerez dans quelques instants. Parmi ces mots et ces gestes que Jésus pose, il y a ce qui est raconté à la fin de l'Évangile selon Matthieu. En effet, il s'adresse à ses disciples en ces termes. « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, en réponse à cet appel de Jésus, que demandez-vous ?
Je demande le baptême. Jésus-Christ est le Seigneur.
Martine, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous, cette bénédiction est également vraie. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Vers toi, il tourne sa face et te donne sa paix. Amen. Martine, vous avez reçu le baptême, c'est-à-dire, je comprends que cela suscite quelques émotions, mais que ce soit bien clair, c'est pour nous un acte de joie, même si bien sûr le baptême est aussi la séparation d'avec un passé. Nous vous accueillons comme membre de cette Église, membre à part entière. Cela signifie que cette table qui est dressée est aussi votre table. Nous vous reconnaissons comme frères. Et c'est le lien de la foi qui, bien sûr, nous unit. Et vous avez maintenant aussi l'occasion de pouvoir exprimer ce lien de foi, pouvoir exprimer ce qui se joue en vous. Et je vous propose donc de nous conduire maintenant dans ce temps de confession de foi, en professant vous-même votre foi. Et je vous invite, frères et sœurs, à vous lever.
Oui, je crois. Je crois en l'appel silencieux qui, plus proche que je ne suis de moi-même, est à la fois plus grand que le monde entier, m'a appelé dès le commencement, bien avant que j'aie des oreilles à l'écouter. Je crois en ceux qui m'appellent aujourd'hui encore à la liberté de briser l'emprise étouffante de tout qui, selon la sagesse du monde, est toujours déjà vu, déjà entendu, déjà compris. Je crois en ceux qui changent en folie la sagesse du monde et me laissent espérer ce que je ne vois pas encore, mais qui reste toujours à venir. C'est par la foi que je l'attends avec persévérance. J'espère alors que sera révélée en moi une lettre écrite non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. J'espère que, quoique mortel, je ne mourrai pas, mais serai changé en un instant, en un clin d'œil, car le jour du Seigneur vient comme un voleur en plein nid. J'espère, selon l'esprit de la promesse, que je serai rendu digne de recevoir ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ainsi qu'il est dit selon l'amour du Seigneur, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Amen.
Thank you.
Éternel, notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes, jour après jour, et en particulier pour ton esprit qui habite en notre cœur, nous rassurant et nous fortifiant. Merci pour cette parole qui nous guide vers toi et donc vers les autres. Nous te remercions pour ce frère que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie pour ce moment de foi. Précisément, fortifie tout spécialement la foi de Martine. Sa venue parmi nous ce matin est un témoignage de foi. Elle aurait de nous, jour après jour, année après année, à nous approcher sans cesse plus près de toi, à être plus confiant en ta parole, être plus au service des autres. Que ta joie soit notre force. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Quelques versets pour accompagner notre méditation ce matin, que je puise dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 3 sera l'occasion d'entendre un récit qui nous permettra, en cette veille de fête nationale, de repenser l'un des maîtres mots de notre République, la fraternité. Plus que la fraternité, il sera aussi question donc de filiation. Dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Marc, je vais vous lire les versets 20 à 22, puis 31 à 35. Jésus et les disciples revinrent à la maison. Le texte grec dit qu'ils entrèrent jusque dans la maison. Et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté, il s'agit de Jésus, vinrent pour se saisir de lui, car il disait « Il existe ». Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère. » Et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Seigneur, ta parole est pour nous source de la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Toujours dans notre psaumier, continuons à chanter le psaume 107. Nous chanterons les strophes 5 et 8 du psaume 107. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, ni accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour toute notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, voilà bien une expression des plus ordinaires dans notre vie d'Église. C'est ainsi qu'a commencé notre culte. Il y a fort à parier que c'est ainsi qu'il s'achèvera. Nous employons volontiers le terme de frère ou de sœur pour nommer celui qui se tient avec nous dans la communauté chrétienne, qu'il soit un chrétien de longue date ou quelqu'un de fraîchement baptisé. Le frère, la sœur, sont des expressions usuelles, on ne peut plus usuelles, que nous utilisons de façon tout à fait machinale, sans forcément réaliser à quel point cette expression est subversive, à quel point elle met en question les structures fondamentales de l'anthropologie populaire, populiste, c'est-à-dire à quel point elle interroge l'identité humaine en remettant en question la filiation naturelle. Ce texte nous propose d'interroger cette question-là, je vous propose de suivre le texte, et de réformer éventuellement notre compréhension de la filiation et donc de la fraternité. Tout commence par un choc. Un choc que les copistes, puis les traducteurs, se sont efforcés d'atténuer. En effet, la parenté de Jésus, que certains copistes ont essayé de remplacer par les scribes et les autres, c'est le cas du codex de Bèze, vient pour saisir Jésus, car ils disent, selon les traducteurs, que je n'ai pas suivi, il est hors de sens. Ce sont les traductions de Darby et de Segond. Il a perdu la tête, traduction œcuménique de la Bible. Ou encore, il a perdu le sens, Bible de Jérusalem. L'évangile selon Marc, le plus ancien des évangiles retenus dans la Bible, nous offre une version autrement plus crue, plus choquante lorsque nous l'entendons dans sa forme originelle, puisque les parents de Jésus disent la raison pour laquelle ils veulent le saisir de la manière suivante. Il existe. Pourquoi veulent-ils le saisir ? Oui, même moi je suis ému par cette question-là. Ils veulent le saisir parce qu'ils disent que Jésus existe. Le reproche, c'est que Jésus existe. Jésus existe et ça ne peut plus durer. Si nous nous souvenons qu'au verset précédent, Jésus vient d'entrer dans une maison, que ses parents disent qu'il existe, est d'autant plus frappant qu'exister signifie se tenir hors d'eux. On reproche à Jésus de se tenir dehors, lui qui vient d'entrer dans une maison. La scène du conflit entre Jésus et sa famille biologique est bien campée. Il lui est reproché de ne pas tenir la place que sa famille lui avait attribuée. Jésus sort de la destinée qui lui avait été assignée. Il va jusqu'à entrer dans une nouvelle maison, ce qui, dans la pensée antique, désigne aussi bien le bâtiment que la famille. Il suffit, dans notre langue, de penser à la question de la maisonnée, qui désigne aussi ceux qui habitent dans la maison. La famille biologique n'accepte pas que Jésus soit entré dans une autre famille. Et elle décide donc de le saisir pour le remettre dans le ghetto familial, un ghetto qu'il n'aurait pas dû quitter selon eux. Ces premiers termes du conflit nous aident à mieux comprendre l'origine de nos propres conflits familiaux. Et les traducteurs qui ont interprété l'expression « il existe » par tout un tas de subterfuges, nous apportent leur contribution personnelle. Et à leur manière, ils disent juste sur nos propres revendications et nos propres précompréhensions. Lorsque nous disons de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos cousins, qu'ils ont perdu la tête, ou qu'ils ont perdu le sens des responsabilités, qu'ils ne sont plus eux-mêmes, qu'ils sont hors d'eux-mêmes, n'est-ce pas d'abord le constat qu'ils sont là où nous ne les attendions pas ? N'est-ce pas d'abord une manière de dire qu'ils ne correspondent plus à l'image que nous nous en faisions ? Ou, pour être encore plus précis, ils ne font pas ce que nous attendons d'eux. Et le problème, c'est eux, bien sûr, c'est pas nous. La liberté de l'autre nous pose toujours problème. Parce que le premier effet de la liberté de l'autre, c'est de nous renvoyer à nos propres enfermements. La liberté de l'autre pose toujours problème, surtout lorsque nous ne nous sentons pas libres nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons, par exemple, prisonniers des liens biologiques. Lorsque nous ne vivons que pour maintenir l'image modèle d'une famille idéale, qui, soit dit en passant, ne figure pas dans les textes bibliques. Les textes bibliques ne présentent pas un modèle familial à l'exclusion d'un autre ou de plusieurs autres. Le modèle familial idéal n'existe que dans l'imaginaire des générations qui le construisent au fur et à mesure des époques. Et donc, lorsque nous nous sentons prisonniers de cette sorte, dès qu'un individu prend quelques libertés, cela devient vite insupportable. Et la seule façon de pouvoir supporter cela, c'est de le saisir et de le ramener à de meilleurs sentiments. Notre première réaction, c'est de ramener à la bergerie la brebis qui s'en va. Contrairement au père de la parabole de l'évangile selon Luc, qui lui laisse aller le fils cadet. Alors que l'aîné, lui, est prisonnier des liens du sang. Et si on se souvient de l'évangile selon Luc au chapitre 15, on sait quelles sont les frustrations qu'il va nourrir jusqu'à ce que le conflit éclate finalement. Ce passage biblique révèle que notre compréhension du réel est parfois contaminée une fois de plus par le narcissisme. Le fait de tout évaluer, de tout analyser à partir de soi. C'est ce que fait la famille de Jésus. Elle pense la trajectoire de Jésus à partir d'elle-même, de ses catégories, de ses références. Les parents de Jésus pensent qu'il est en dehors alors qu'il vient d'entrer dans une maison. Cela montre bien qu'ils veulent dire par là qu'il est hors de leur pouvoir, hors de leur sphère d'influence, et que ça, ils ne le supportent pas. Oui, Jésus existe. Jésus est hors de Jésus, au sens où il est hors du Jésus que sa famille s'est idéalisé. Jésus est un homme libre qui est sorti du ghetto de la famille biologique. Il n'est pas perdu pour autant, il est juste entré dans une autre maison. Et dans cette nouvelle maison, l'identité familiale est pensée en d'autres termes que le biologique. Et la subversion est ici. Alors que la famille biologique de Jésus considérait avoir un droit sur lui, le fait de vouloir le saisir signifiant bien l'idée qu'ils avaient la mainmise sur lui, une sorte d'emprise, Jésus neutralise toute idée que les liens du sang octroient le moindre droit. Et il va plus loin en posant qu'il y a des liens qui sont plus vrais que les liens du sang, puisqu'il affirme que la foule qui se tient autour de lui est sa famille véritable. Arrêtons-nous un instant sur cette scène et actualisons-la. Je me tiens au milieu de vous et je puis affirmer, d'autant plus facilement que ma famille biologique est un peu en vacances actuellement, que vous êtes ma famille réelle. Mais elle serait là, je dirais la même chose. Vous-même, vous êtes en mesure de vous tenir là au milieu et d'affirmer également que votre famille réelle est là, alentour. Ceci pour dire que la foi chrétienne n'accorde pas de valeur supérieure à la consanguinité. La foi chrétienne n'accorde d'ailleurs pas plus de valeur à la religion, à la région, à la nation ou à la moindre délimitation tracée à main d'homme. Paul le rappellera, l'identité de l'être humain qui se place devant Dieu transcende aussi bien le sexe que la nation, que la culture, que la religion. Et nous pourrions continuer la liste. Se tenir devant Dieu, c'est précisément sortir de son narcissisme. Étant entendu qu'un groupe, une société peut être collectivement narcissique. Le nationalisme est un narcissisme. L'intégrisme est un narcissisme. L'égoïsme est un narcissisme. Le protestantisme est une forme de narcissisme. Le libéralisme est une forme de narcissisme. Il y a un moment où ces identités doivent éclater. C'est ce que Jésus fait ici même, un acte de subversion. Revenons à la scène de l'évangéliste, justement. On dit à Jésus que sa famille se tient dehors, ce qui montre bien que le dehors, le dedans est très relatif, puisque la famille de Jésus estime que c'est Jésus qui est dehors. Voyez, il y a ici un formidable quiproquo qui n'est pas sans faire penser au propre quiproquo que nous affrontons parfois. Des quiproquos qui ont lieu à chaque fois que les interlocuteurs adoptent des référentiels différents. Ce qui est dehors pour l'un peut être dedans pour l'autre. Ce qui peut être une cause d'angoisse pour l'un peut être un bol d'air frais pour l'autre. Ce qui peut être la fin d'une histoire pour l'un peut être le début d'une histoire pour l'autre. Et il en va de même pour la question de l'identité. Jésus va s'efforcer d'opérer un changement de référentiel. Ici, l'identité cesse d'être déterminée par le passé, par la naissance, par la certitude du sang ou le milieu social d'origine. L'identité dans la perspective de Jésus est construite à partir de notre présent et de ce que nous en faisons. Ce qui est extrêmement libérateur en soi. Que notre identité soit détachée du passé, ou du moins qu'elle ne soit pas entièrement conditionnée par le passé, car il ne s'agit pas de faire comme si nous n'avions pas de passé, il s'agit juste d'en être libre, que notre identité donc soit détachée du passé, a pour conséquence que notre identité n'est plus figée. Nous ne sommes plus seulement ce qu'on a bien voulu faire de nous. Il peut aussi y avoir de l'acquis, comme on dit par ailleurs. Du coup, il est possible de naître dans un milieu non-croyant et de devenir chrétien, ou l'inverse, car le baptême n'est pas une condamnation à perpétuité. Il est possible de parler une autre langue que sa langue maternelle. Il est possible d'avoir un métier qui n'est pas celui de ses parents. Il est possible d'avoir un modèle familial différent de ses parents. Et il est aussi possible d'être soi sans rester campé sur ses positions, sur ses convictions. Nous avons le droit de changer au cours de notre vie. Notre identité se joue dans notre manière d'habiter la maison, celle où nous nous tenons ici et maintenant. Alors, qui sont les véritables frères et sœurs de Jésus? Eh bien là encore, il est intéressant de revenir au texte grec, qui n'apporte pas un contenu ou un message caché, mais il est des temps où il est bon d'entendre à nouveau de quelle manière la langue grecque nous offre les mots pour penser la vie. Les véritables frères et sœurs de Jésus, sa mère, sont ceux qui font la volonté de Dieu. Faire, en grec, c'est poiein, ce que nous entendons dans poésie, poète, poème. Ceux qui veulent être de la famille de Jésus sont donc appelés à poétiser la volonté de Dieu. Disons que les disciples de Jésus sont les poètes de Dieu. Et cela change beaucoup de choses par rapport à l'être chrétien. Du moins par rapport à ce que nous entendons souvent. Parce que les poètes de Dieu sont donc ceux qui mettent en mots, en rimes, en rythme, non pas les paroles de Dieu, mais sa volonté. Il y a un écart important. C'est que la volonté, pour y avoir accès, suppose un acte d'interprétation. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné tout cuit, c'est quelque chose que nous devons élaborer nous-mêmes. Nous devons nous investir personnellement dans la quête de la volonté de Dieu, qui ne nous est pas offerte, pas même à travers les textes en l'état. Cela suppose donc un degré de liberté supérieur. Être de la famille de Jésus, ce n'est pas être les gardiens du texte biblique. Être de la famille de Jésus, ce n'est pas être les gardiens de la tradition. Il ne s'agit pas de garder. En hébreu, on aurait shamar. Il s'agit de poétiser la volonté de Dieu. Ne pas répéter inlassablement, mais injecter sa touche personnelle, sa nouveauté, son ridouche. Ce que fait le poète, c'est de voir le monde, de voir au-delà de l'horizon, disait l'autre, et d'y discerner le désir, d'y discerner la vie qui est en train de jaillir. Relisons les théologiens poètes comme Emerson pour voir à quel point la nature, le monde, l'histoire sont les théâtres d'une théologie qui discerne une volonté, un désir qui est en train de voir le jour. Le poète est celui qui restitue la vie dans toute l'étendue de ses possibilités, parce qu'il arrive à débusquer la vie partout où elle pointe le bout de son nez. Le poète, contrairement à celui qui est fasciné ou désabusé par la vie et qui ne voit que les choses dans leur répétition, voit ce qu'il y a de nouveau, voit ce qui est potentiellement nouveau, voit ce qui peut advenir et devenir. Être disciple de Jésus, ce n'est pas autre chose selon l'évangéliste Marc. Discerner cette volonté de Dieu, c'est entendre dès les premières pages de la Genèse ce désir de rendre le monde vivable, par exemple. Ce poème, ce grand poème qui ouvre la Bible, Genèse 1, parle de la manière qui nous est offerte pour que tous les germes de vie puissent éclore. Il ne s'agit pas de fabriquer le monde, il s'agit de le poétiser. Poétiser les lieux de vie, poétiser les projets, poétiser les conflits, poétiser les souffrances et les échecs, poétiser les relations personnelles, poétiser le quotidien, poétiser notre identité. Notre identité qui n'est donc pas figée en un état définitif. Poétiser, c'est le contraire de saisir. Les parents de Jésus veulent saisir Jésus pour le maintenir au sens littéral du terme. Le poète caresse la vie pour la stimuler, pour la ressusciter. Le poète est plus que ce que disait Baudelaire de mémoire quand il parlait de l'éloge des voleurs de feu. Le poète est celui qui souffle sur les braises. Le poète, c'est celui qui souffle sur les braises du foyer. C'est celui qui souffle sur les potentialités de la maison. C'est celui qui attise le feu qui couve dans son lecteur, dans son auditeur, dans son interlocuteur. Ce feu qui couve en nous, ce désir ardent de mettre en rime paix et justice, amour et liberté, éducation et responsabilité, respect et enjoyment. Poétiser, c'est faire droit aux possibilités qui sont à notre disposition. C'est mettre en œuvre les interactions possibles pour embellir notre maisonnée. Et parfois, c'est même changer de maisonnée pour entrer dans une maisonnée plus grande, pour élargir la fraternité, parce que nous nous découvrons, frères et sœurs, de plus que ce qu'on nous avait dit jusque-là. Oui, la foi chrétienne est l'histoire d'une révélation. Nous nous révélons plus grands que ce que nous imaginions jusque-là. Plus grand parce que inscrit dans une fraternité élargie. La foi chrétienne, de ce point de vue, c'est opter pour un autre référentiel que celui qui s'est trop souvent transmis de génération en génération et qui s'évertue à maintenir les choses en l'état. C'est opter pour un référentiel qui n'est pas aligné sur nos étroitesses d'esprit, mais qui se construit dans l'interaction face à l'ultime, face à l'absolu, devant Dieu. C'est adhérer à cette idée qu'appartenir à la famille chrétienne, ce n'est pas appartenir à une communauté étroite, ce n'est pas appartenir à une secte au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un groupe coupé des autres. Ici, ce n'est qu'un tremplin vers une fraternité plus grande, une humanité élargie. Appartenir à la famille chrétienne, c'est se tenir à part des déterminismes. Amen. Petite mise en voix pour ceux qui demain chanteront l'hymne national. Le cantique 150 sera l'occasion d'entonner un autre hymne international. C'est ça le changement de référentiel. On n'est pas limité à une identité en chantant « À toi la gloire », les strophes 1, 2, soyons fous, la troisième aussi. Place. Vous voyez comme la foi chrétienne est encore plus radicale que la foi républicaine, puisque dans sa dernière strophe, la strophe des enfants, il est question d'entrer dans la carrière et d'y trouver la trace de la vertu de ceux qui nous ont précédés. La foi chrétienne repose sur un tombeau vide, vide de toute trace de vertu, juste quelques signes qui demandent beaucoup d'interprétation. Alors, pour nous entraîner à interpréter les signes, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, acheter la revue Évangile et Liberté. Le cahier central a été rédigé par Aurélien Péter, notre organiste titulaire suppléant. Donc c'est une bonne raison de lire ce numéro. À propos d'orgue, vous voyez que la façade est légèrement édentée. Le relevage de l'orgue continue. Et voyez que par le talent de notre organiste Jean-Dominique Pasquet, nous n'avons pas trop souffert. Autre manière d'interpréter les signes et d'apprendre à interpréter les signes, mercredi de 12h30 à 13h30, nous déroulons notre cycle consacré à l'Alliance dans les textes bibliques. Et donc, mercredi, ça sera en face aux 4 rues de l'Oratoire, au rez-de-chaussée. Nous ferons suite au récit de l'Alliance avec Moïse, avec le récit de la scène, aussi bien chez Luc que chez Marc. Vendredi, ici même, à 12h30, Jean-Dominique Pasquier, notre organiste, nous offre une heure musicale avec des œuvres de Guillemant, Renberger, Kargalder et Sellier. C'est de 12h30 à 13h30. Et puis, nous nous retrouvons dimanche prochain pour notre culte, comme d'habitude, à 10h30. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous sommes le deuxième dimanche du mois. C'est donc une offrande consacrée à l'entraide. Frères et sœurs, le repas que nous allons maintenant partager est une métaphore, une préfiguration du règne de Dieu qui pourrait très bien intervenir comme cela en un clin d'œil, juste parce que le jour du Seigneur vient précisément comme un voleur. Quel rêveur et quel réformateur, en vérité, quel anarchiste n'a jamais proposé d'inviter le patron et le manœuvre au même repas pour les faire boire à la même coupe. Eh bien, la scène opère ce miracle. Les boueurs y portent la coupe à ses lèvres et la passent au député qui boit après lui, disait Wilfred Monod. Dans la simplicité de cet acte sans phrase, il y a quelque chose d'effectivement surnaturel et qui nous dépasse au point de nous troubler étrangement. C'est que l'Évangile y apparaît comme l'énergie égalitaire par excellence. Jusque-là, seule la mort pouvait prétendre nous rendre tous égaux face à elle. Toutefois, la mort crée brutalement une égalité involontaire entre les personnes, tandis que l'Évangile, lui, suscite harmonieusement une égalité des vivants consciente et volontaire, le fait d'adhérer au désir, à la volonté de Dieu. Cette communion que nous célébrons tous autour de cette table est donc un bouleversement qui dit quelque chose de l'humanité véritable, le germe de cette nouvelle terre où la justice habitera. Ce pain a une histoire, et c'est cela qui est intéressant aussi. Pour faire la bouchée de pain qui nous est offerte ce matin, il a fallu presque un an d'efforts et de collaboration obstinée avec la pluie et les rayons du soleil, et tout le travail des hommes, du grainetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger, du boulanger à cette table. Ce pain est véritablement la nourriture la plus noble qui soit. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse et c'est le sacrement de la solidarité avec l'humanité au travail qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Alors, levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec le répond indiqué dans notre livre liturgique. Ainsi, ce pain et cette coupe sont au centre du monde pour nous ce matin, comme pour beaucoup de chrétiens qui, en même temps que nous, à quelques décalages près, célèbrent ce même repas en ce même jour. Par le fruit de la vigne, par les épis de blé et le travail des hommes, nous nous souvenons de Jésus-Christ qui s'est présenté à nous comme le pain vivant et comme la vigne. Le soir, avant d'être livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a donné à ses disciples en disant ceci: « Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur a donnée et il a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Éternel notre Dieu, toi qui nous rassembles et nous invites, veuille ressusciter en nous le désir et l'attente de la venue du Christ. Envoie ici ton esprit pour que nous recevions en ce pain et en ce vin cette présence vivifiante que nous nommons le Christ. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés, maintenant réunis, comme ce vin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les hommes soient rassemblés dans ton amour et réunis dans ton règne. Et c'est dans cet esprit de communion que nous disons avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que celui qui a faim s'approche de cette table. Que celui qui a soif vienne au repas que le Seigneur lui-même va présider. Nous sommes toutes et tous invités, petits et grands. Nul ne peut être exclu du repas du Seigneur. Ayez la simplicité de passer par l'allée centrale et ensuite de repartir par les allées latérales. Venez, car tout est prêt. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour la multitude, pour le pardon. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Frères et sœurs, regagnons nos places dans l'amour du Seigneur ressuscité. Seigneur, en partageant ce repas avec mes frères et mes sœurs, j'ai rêvé d'un monde. Un monde où l'on ne savait plus ce que signifiait le mot oppression. J'ai rêvé d'un monde où l'on pouvait manger et chanter sans que d'autres ailleurs manquent de pain et vivent dans les larmes. J'ai rêvé d'un monde où les chants des oiseaux avaient remplacé le bruit des armes et la tendresse la recherche de l'argent. J'ai rêvé d'un monde où plus personne ne cherchait à réussir sa vie sur le dos des autres. Un monde où la femme était poète à son tour et où le poète n'avait plus peur de proclamer très haut son chant le plus précieux. J'ai rêvé d'un monde qui ressemble à ton royaume, Seigneur. Et ce rêve est aujourd'hui ma prière. Je voudrais te dire merci de m'avoir donné ce rêve, que ce soit aussi mon combat de tous les jours. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir ultimement la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.